Si vous voyez que ça s'arrête de tourner, vous me le dites.
De préférence, oui, d'accord. Bon, alors la photo que je viens de te donner, on peut dire, va aller, c'est le début de l'histoire. Tu as deux tirages entre les mains. Tu as un grand format et tu as un tout petit format de rien du tout, qui est la photo originale de Christian Petit Garçon dans la loge de concierge de sa grand-mère, rue d'Anguin. Donc je suis née dans le Faubourg Saint-Denis, tu vois le style. Bon. Et le grand tirage, eh bien, c'est 50 ans après, photo faite par Christian. Alors le jeu, pas c'est le jeu des erreurs et des différences. Donc tu regardes les différences et les erreurs, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Et je crois que quelque part, pourquoi je commence par ça, c'est parce que je crois que c'est très significatif d'une des caractéristiques de Christian, si on parle de photographie pour lui, c'est le temps, l'effet du temps. Donc eh ben, on va voir un petit peu du côté de chez Pérec. Et je crois qu'on comprend plein de choses sur les traces laissées et à la recherche de ces traces du temps qui passe. Je crois que c'est assez ça. Donc ben voilà, ça tu peux le mettre en intro, puis ça va leur en foutre plein la vue. Et je crois que ça raconte beaucoup de choses. Donc, le début de l'histoire, ben, je suis née dans le Faubourg Saint-Denis, et puis parce que ben, j'ai perdu mon papa d'un accident de moto. Quand j'avais 3 ans. Et puis, ben, ça ne m'a pas empêché d'aimer beaucoup, 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 beaucoup les motos et d'avoir eu tout le temps des motos depuis, dès qu'on peut avoir un 50, et ben, j'ai eu un 50. Ça, c'est Christian qui parle. Hein. Et puis, ben, j'étais à l'orphelinat. Ben, c'était pas drôle, hein, parce que l'orphelinat, c'est jamais drôle. Si. Comme j'étais un bon élève, et pourquoi j'étais un bon élève, tout simplement parce que bah, ça permettait d'avoir une chambre, ça s'appelait, mais en fait c'était une toute petite cellule de rien du tout, simplement la place d'un lit et puis d'un petit placard où mettre mes affaires. Alors ça, c'était très très bien. Et puis bah, le bout de la route que tu regardes du haut de la fenêtre de Valence-en-Brie par exemple. Et puis tu te demandes ce qu'il y a au bout de la route, et puis tu te demandes si parfois ben, il y a peut-être un papa et une maman un peu loin, ben, manque de peau, ben, il y a pas, parce que le papa il est parti et puis que la maman ben, elle n'est pas très présente. Et puis ben, on s'en tire quand même pas mal, puis on finit quand même par aller au lycée. Oh, pas longtemps, juste 30 mois. Quoi. Donc, parce que c'est drôlement mieux d'aller bouffer des saucisses à Pigalle et puis de regarder. Petit peu les sex shops, etc. Et puis manque de peau, on a une appendicite, alors ça c'est fantastique. On va à Bretonneau d'ailleurs, où on me fait plein de misère avec une cuillère pour me récurer ma plaie. Donc je m'accroche au barreau de mon lit. Et puis bah, quelques 40 ans plus tard, bah, je vais habiter justement en face de Bretonneau, quel drôle de choses. Et bon, bah, le lycée, non, hein, décidément, les études, non, hein, pas fait pour ça. Donc, on me remet dans un autre pensionnat pendant un an, et puis après ça, histoire de passer le certif. Et même que j'ai la mention, très bien, et puis que j'ai un beau livret de caisse d'épargne pour récompenser ça. Et puis, après ça, ben, se pose la question, ben, mon grand, qu'est-ce que tu veux faire ? Ah ! Ben, je veux être cuisinier ou je veux être photographe. Alors de toute façon, ben, c'est des casseroles à récurer. Au départ, je ne le sais pas, mais je m'en aperçois. Parce que finalement, je me retrouve chez un photographe où je lave les cuvettes, je fais tout ce qu'il veut pour faire, qu'il n'a pas le temps de faire, je me fais chier. Y a des anecdotes assez cocasses, puisque mon deuxième patron, par exemple, le troisième matin, j'arrive... Il n'y a presque pas de lumière, il n'y a pas de bruit, j'entre dans le couloir. Et là, j'arrive dans le studio. Et puis, je me dis, tiens, c'est bizarre, il va y avoir une photo particulière. Il y a tout un décor, il y a un grand lit à baldaquin avec une dame allongée dans le lit, et il y a des cierges tout autour. Et puis je regarde, et puis mon dépôt, ben, il n'y a pas de balcard, il n'y a pas d'appareil. Ben non, je me suis trompée, c'est simplement que mon photographe de patron, ben, il vient de perdre sa maman, alors je ne lui offre pas de photo. Quoi. Drôle d'histoire. Mon troisième patron, eh ben, il manque de peau, il boit trop de whisky et avec un gros chagrin d'amour, il passe par la fenêtre et se défenestre. Ça fait quand même beaucoup pour le même bonhomme. Eh ben, je continue quand même, je fais des photos de collection de mode pour un autre photographe, un Suisse. Ça m'a beaucoup marqué par de la rigueur. Et puis après ça, ben, j'ai un autre Suisse qui s'appelle Trautmann. Et lui aussi fait de la mode et puis travaille pour réalité. Et je m'engueule avec lui un jour parce que ben, il fait un reportage sur la chasse à cour. Et puis déjà, tout petit, la chasse à cour, moi, je peux pas saquer. Hein, donc je suis rue dans les brancards. On se dispute. Et puis ben, je m'en vais encore une fois. Mais entre-temps, bah, il m'est arrivé quand même quelque chose d'assez incroyable. Bah, c'est que je suis drôlement amoureuse. J'ai rencontré une nana avec une robe blanche et des pois bleus. Même que c'était une robe qui s'était faite elle-même, hein, à la piscine des Tourelles. Et puis en fait, bah, je l'ai draguée en lui demandant si je pouvais me peigner avec son peigne. Et puis elle a dit oui. Hein, puis apparemment, bah, c'est bon, quoi. Alors effectivement, on n'a pas le droit de se voir parce que ses parents, ils n'ont pas voulu, donc on est interdit. Mais ben, on s'écrit des pneumatiques parce qu'à l'époque, ben, ça existait encore. C'est fantastique, c'est un espèce de gros tube, on met sa lettre dedans et paf, ça y est, ça arrive à l'être aimé, c'est quand même génial. Et puis une heure après, ben, ça y est, on en a un autre qui arrive et puis ça n'en finit pas, puis on passe des heures au téléphone. Et ben voilà, au bout d'un moment, ben j'en ai quand même marre de mes patrons. Et je me dis que, bon, faire tourner un labo, faire de la mode, non, ça ne me dit pas grand-chose. Alors heureusement, j'ai un cousin qui, depuis pas mal de temps, m'emmène sur les circuits. Il a monté avec un copain, il a remonté une Gordini. Et on est vraiment, vraiment, tous les dimanches, à partir pour Montlhéry, etc. Puis la bagnole, j'aime ça. Et donc, je m'en vais à Publicis. Et puis voilà, ça marche. Donc, je fais des photos pour Publicis. Je fais des photos de rallye. Alors bon, je dors pas la nuit. Je dors sur un pneu alors qu'il y a des voitures qui passent. Je suis sur les circuits aussi et tout ça. Donc, la voiture jusqu'au cou. Et ben, ça dure un bon bout de temps. Il y a même au gag, avec mon petit minox de rien du tout, ben, je fais des photos pour Renault, pour Publicis. Et puis ça, ben, c'est placardé, géant dans les rues. J'ai plein de fric. Qu'est-ce que j'en fais de tout ce fric? J'en sais rien. Si, ben, j'emmène mon amour sur... pour la première fois, parce que là, ça y est, j'ai enfin l'autorisation qu'on parte en vacances ensemble. Alors, je l'emmène en Corse, on y va en avion, je paye des tournées à tout le monde. Voilà, bon. Et puis, bon, des années se passent, et puis je commence à en avoir vraiment ras-le-bol de cette pub. Et tiens, arrive 68. Et là, je me dis que vraiment... non, je dis des bêtises, c'est pas vrai, c'était pas en 68, j'ai arrêté en 66. À 66, je me suis mis à mon compte. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre, est-ce qu'on va y arriver, etc. On verra bien. Et puis ça marche tant bien que mal. Je fais encore des photos en pigiste pour les canards de voiture. Et pour l'automobile, tous ces canards-là. Et puis, après 168, j'ai dit, merde, non, c'est pas possible. C'est un signe. On m'a demandé de faire des photos de papier cul. Je les ai ratées. Elles sont revenues en photo refusée. Pas possible. Je dois vraiment plus faire ça. J'arrête. Puis Martine vient de commencer à avoir son travail. On a bien envie de vivre ensemble. On se demande, parce qu'on se dit quand même que, bon, c'est peut-être pas très très sérieux. Et puis bon, bah ça y est, je prends une piole, rue Legendre. Et elle va certainement pas tarder à me rejoindre. Puis je suis vachement contente parce qu'on va être enfin être tous les deux. Et en fait, tant bien que mal, et bah j'essaye d'avoir des travaux. Et puis, il va falloir que je me sorte de la photo de pub. Parce que j'ai l'impression que j'ai les yeux pleins de merde. Et il faut que je retire toute cette merde pour arriver à enfin voir. Parce que j'ai des choses à voir, ça c'est sûr. J'ai plein de choses à voir. Et en 68... Non, en 69, pas d'abord, ça y est, on est ensemble. Hein. En 68, fin 68, on vit tous les deux, on est vachement heureux. En 69, et pas parce que bon, ça se fait, parce que nous, à la limite, on est vachement contents de le faire aussi, puis que ça fait plaisir aux parents, et puis que bon, pourquoi pas. Et ben, on se marie tous les deux à la mairie du 17e. Et on quitte notre chambre de bonne, et puis ça y est, on a deux pièces, avenue Parmentier. Et puis là, c'est vraiment, on commence un truc complètement fou. À la maison, on n'est jamais tous les deux. Pendant un an, on n'est jamais tous les deux. C'est juste au bout de l'année qu'on se dit tous les deux, mince, qu'est-ce qui se passe? On est tout seul ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il n'y a pas Heure? Pourquoi il n'y a pas un tel et un tel et un tel? Pourquoi il n'y a pas Mickey? Ça y est, j'ai même oublié les noms de tous ces gens. Qu'est-ce qu'il en reste? J'en sais pas grand-chose. Et donc, je me lance dans ma photo. Et en 70, on répond à une petite annonce donc, qui paraît dans le Nouvel Obs, où il y a un groupe d'artisans qui veulent bien accueillir d'autres personnes. Et puis, on n'est pas 68 heures pour rien, non. Et donc, on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ras le bol de Paris? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dans les Pyrénées orientales dans le midi? Bon. Donc, on descend, mais on ne va absolument pas y rester, hein, ça c'est sûr. Parce que Cérès, c'est une. C'est comme une vieille cocotte minute, abandonnée au fond du jardin, avec des plantes superbes, au fond, qui continuent de pousser. Alors nous, on descend dans le fond de la cocotte minute et puis on sent, parce que ça sent très très bon, mais manque de points, on se fait bouffer. Et quand on veut remonter de la cocotte minute pour en sortir, on a bien du mal. Mais heureusement, on s'est aperçu de tout ça quand on était encore en haut de la cocotte minute. Alors on n'y est pas rentré. On a juste regardé sur le bord. Ça nous est quand même très très triste de voir tous les autres crever. Bon, mais ça, c'est autre chose. Ils ne sont pas tous crevés. Il y a... Il y a Déa, docteur Amalia Vargas, pharmacienne de son état. Et Critique Taurine, seule femme dans le monde de la tauromachie. Pas rien, Déa Vargas, quelle classe. Et elle nous emmène donc dans le monde des toreros français. Et c'est comme ça que je fais mes premières photos du livre Les Cornes Noires. Donc. Bon, pourquoi la tauromachie? Pas vraiment qu'on ne connaissait pas. On ne connaît pas tous les deux. Martine, elle est dans les gradins. Et puis moi, je suis derrière les barrières, ça y est, j'ai oublié le nom, Cairon. Et ben, on va voir ce que c'est que la tauromachie. On va pas prononcer si on aime, si on n'aime pas, si c'est barbare, si c'est une merveilleuse danse d'amour et de mort à la fois. Et puis voilà, ben, ça va être mon premier bouquin. Subventionné par un des parents d'élèves de Martine. Et ben, pas tellement diffusé, comme d'hab. Hein. On va se retrouver dans les années 2000, puis on va se dire la même chose, hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'est pas facile d'éditer des bouquins photos. On se fait avoir par les éditeurs, et on finit par faire le... On commence un des premiers livres, le deuxième, Ticket de Caire. Ça, c'est encore une autre histoire pour un tout petit peu plus tard. On en finit par faire son bouquin avec le fric des amis et puis se le diffuser soi-même, parce que sinon, soit il est pas mis en vente, on fait un bouquin pour éponger le surplus des bénéfices et pas payer d'impôts. Soit on a des grands délires, on se croit éditeur, parce que ça fait drôlement chouette. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est pas ça, et puis on planque les bouquins dans un hangar à bateau, et puis on voit nager des livres au long de l'eau. Mais c'est peut-être la vie des livres aussi de nager au fond de l'eau, hein. Qui sait, on sait jamais. Donc, quand même, hein, j'ai dit, ça c'était Serret. Mais à Serret, il y avait aussi un autre merveilleux bonhomme. Un merveilleux bonhomme qui a été donc déporté STO, le sosie de Cavana. Cavana, on va le retrouver plus tard, hein, décidément, il n'y a pas de secret. Hein. Il y a vraiment des alliances perfides, des hasards qui ne sont pas des hasards, qui font qu'on rencontre des gens qui se ressemblent, qui ont les mêmes bouts de vie ensemble, même s'ils ne se connaissent pas. STO, amoureux d'une Russe, qu'on connaîtra pendant le STO, puis qu'on ne verra plus jamais après, et puis qu'on passera sa vie à espérer, même si on sait qu'on n'ira jamais la chercher et qu'on ne sait pas si elle est là, si elle est morte ou est-ce qu'elle est dans les bras d'un autre, mais tous les deux, bah ouais, ils continuent d'y penser, hein, Laurent et Cavana, à leur Russe de Silésie et de STO. Donc Laurent, bah, c'est un grossier, un grand colérique. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Un grand colérique. Voilà. un nanar qui parle à ses araignées, qui avait un amour immodéré pour sa maman. Et à part sa maman, ben, les autres femmes... Il n'a jamais voulu les embêter, en fait. Donc, comme il ne voulait pas les embêter, ben, pourquoi se marier? Enfin, il a été 1000 fois demandé en mariage. Quel beau mec c'était. Et non, parce que d'abord, c'est vrai que ça prend de la place aux femmes. Hein. Et puis, il faut se lever le matin. Hein. Et puis, il faut faire des tas de choses. Et puis, on ne peut pas passer son temps à regarder les nuages. Parce que regarder les nuages, c'est important, hein. C'est pas rien faire. Hein. C'est lui qui m'a appris ça, que de regarder des nuages pendant des heures à la terrasse d'un café, c'était pas rien faire. Et que c'était important. Et que moi, le Parisien, ben, je savais pas en faire ça. Important. Il peint merveilleusement bien. Laurent, ben, je vais le retrouver tout le temps, hein, parce que je vais faire des voyages tout seul, parce que c'est une affaire de mec. Donc Martine, elle a compris ça, elle me laisse partir, faire mes fugues à Serret, voir Laurent, les copains, chaque fois qu'il y a un nouveau livre, je vais le reporter. J'ai mon bain de petit égo de succès qui me gonfle bien, ils sont sympas, ils sont gentils. ça me fait du bien. Ils regardent mes photos, je suis contente, je viens leur offrir mes photos, ils sont heureux, on est bien ensemble, tous, là, comme ça. Au Pablo, avec les frères Astrou, et qui ont la plus belle collection de Christian Louis qui puisse exister. Hein. Là, ils feront un musée Christian Louis quand je serai crevée, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, on a fait les cornes noires, on a fait, je suis perdue, on a fait Ticket. Ah, Ticket, qui est, vous voyez, Ticket est bonne. Donc, on aura fait Square Ribera, mais beaucoup plus tard, hein, dans les années 85. Et ça, ça a été un moment... Oh. Laurent avait ses poèmes qu'on avait retirés de son placard peint, où il garde son beurre qui devient rance, parce que son beurre, il a un an. Et à côté du beurre et de la confiture et de l'huile d'olive, les 3-4 conserves gagnées à la pétanque, parce que le soir, on va jouer à la pétanque. Puis on gagne des kilos de sucre, des boîtes de petits pois, etc. Il y avait les poèmes de Laurent, qui sont plutôt des petits alicaïs, des pensées. Et j'ai eu envie de les publier, ces trucs-là. Mais t'es complètement fada, c'est bien mis des parigots, qu'est-ce que tu veux que ça intéresse quelqu'un, toutes mes conneries. Mais non, tu vas voir Laurent. Tu vas voir. Il était drôlement espanté quand tu lui as apporté le bouquin dans son jardin. Parce qu'il ne croyait pas que ça allait être un livre. Enfin, lui, il pensait à un petit catalogue, de rien du tout. Oh, les yeux de Laurent, ses grands yeux bleus qui pétillaient de bonheur. Ça, c'était quelque chose. Alors, Ticket de quai, Ticket de quai. Pourquoi Ticket de quai? Parce qu'on est toujours fasciné par les entre-deux, les territoires entre-deux, quelque chose. Quand on approche d'une gare, y a la ville, et puis il y a la gare, et puis entre la gare et la ville, il y a l'entre-deux. Le ticket de quai, parce que sur le quai on rêve, parce que sur le quai on dit au revoir à l'être aimé, qu'on attend quand il revient, et puis qu'on entend le bruit des trains, et tchut, tchut, tchut. Et surtout que sur le quai, on peut être un voyageur qui s'en va jamais. Le voyageur qui ne bouge pas, mais apparemment, son corps reste au même endroit. Parce que moi, voyageur, non, entre deux jets, des grands voyages, tout ça, non, ça jamais. Et encore, je vais plus loin que certains qui... Quand il faut quitter Paris, la banlieue, mais surtout pas plus. C'est mon pote Douanou, parce que celui-là, il m'a écouté, je lui ai écrit, puis il m'a répondu, il m'a dit. Et puis tout de suite, il s'est occupé de moi. Quoi. Enfin, il a reconnu que je faisais des photos sympas, il m'a dit, t'as pas le droit de laisser ça dans les tiroirs. Et puis surtout, tu vas continuer. Papa, j'ai continué. Hein. Et puis les trains, on va les retrouver, hein, parce que la vapeur, on aime ça. On ne peut pas oublier le pont de la gare de l'Est ou de la gare du Nord, avec quand on est tout petit, et puis qu'il y a les derniers trains à vapeur, et qu'on en a plein les yeux, quoi. Ça, on ne veut pas. Il aura fallu attendre l'année 2000 pour faire LA photo dont je rêvais à propos des trains. Les yeux dans les escarpins. C'est-à-dire le môme qui est à la fenêtre, qui rêve, qui s'enivre, qui ne voit même plus le paysage parce qu'il y a tellement de fumée. C'est pas grave, parce qu'à travers la fumée du train, il voit tous ses rêves. Il a des escarbilles dans les yeux, alors ça le fait pleurer. Et il sait plus s'il pleure d'émotion, tellement c'est beau, tellement c'est émouvant. Ou si c'est parce que vraiment, cette putain d'escarbille, elle fait mal aux yeux, quoi. Et Voilà, ticket de quai. Bah non, je vais en faire plein de voyages en train, et surtout en train à vapeur. Le pays que je veux. Aïe, Kata. Pourtant, c'est vrai que je vous laisse payer. C'est bien pour ça que c'est le pays que je veux, parce que c'est le sud, et puis que c'est le pays catalan. Et puis, quand on s'est aperçu qu'il ne fallait pas trop y aller, sinon on se faisait bouffer dans le pays catalan. Et puis qu'il faudra attendre que je sois mort pour que les gens de Serret, enfin, disent à Martine, ben oui, Martine, tu vas appartenir au club Taurin maintenant. Et puis, ben oui, une photo de Christian pour faire une carte de vœux. Tu veux bien, t'es d'accord? Qu'est-ce que ça me fait marrer? Et puis elle va bien me défendre, hein, parce qu'elle va les faire casquer. Et puis, Club Taurin, ben, elle ne sera pas membre du Club Taurin, parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle soit membre du Club Taurin. Donc, le pays que je veux, ben, c'est un ratage complet. J'avais confiance dans le cercle d'art. Et puis, ben, je me suis fait bouffer, je me suis fait avoir. Ils ont fait une merde, une vraie merde. J'osais même plus la montrer. Ratage. Re-ratage Saint-Paul-de-Vence. J'ai passé une semaine extraordinaire à Saint-Paul, dans un appartement prêté par un pote de l'auto. Et puis j'ai fait des cartes postales, et puis il y a un éditeur qui a pensé que des cartes postales, ça allait bien aller. Et puis en fait, c'est vraiment merdique. Hein. Allez au chiot, celui-là aussi. Et là, on va commencer à vraiment prendre de la bouteille. Je sais pas, j'ai l'impression qu'avec National 7, il commence à vraiment se passer quelque chose. Bah, il a fallu quand même des années. Hein. Mais bon, je suis complètement imprégnée de photos. Enfin, je peux pas vivre sans. 24 heures sur 24, j'emmerde tout le monde avec ça. Mais... Je vis de photos, je fais du trapèze. La plupart du temps, bah, c'est Martine qui fait bouillir la marmite. Parce que bon, on peut pas dire que de vivre de la photo, ça soit très possible. Hein. Dur, dur. Alors, National 7, bah, un grand rêve. Hein. Des souvenirs à la recherche du temps, comme on disait il y a quelques minutes. National 7. Bah oui, bah c'est celle de... T'en as encore ? C'est celle des vacances vers Nice, dont tout le monde a rêvé. Et bah, mes parents, mes grands-parents, un jour, ils m'ont emmené à Nice, quand j'étais petite. Ils croyaient me faire plaisir, alors c'était surtout à eux qui faisaient plaisir. Ils avaient réussi à trouver... studio, c'était écrit qu'on pouvait voir la mer. Bah oui, bah en fait, de voir la mer, on voyait vraiment pas grand-chose. Il fallait vraiment se mettre sur un tabouret. Et là, on apercevait un tout petit bout de mer par la fenêtre. Bon. Puis qu'est-ce que je me suis fait chier. Et c'est là vraiment où j'ai découvert que même si j'avais que 10 ans, bah, j'étais drôlement différent de mes grands-parents, tout ça. Ben ça, quand on découvre ça, ben ça fait un drôle de coup au cœur. À la fois, on est content parce que malheureusement, on les voit. Et puis, qu'on les voit malheureux, quoi, qu'on les voit pas bien. Et puis, on sent la séparation avec ses grands-parents, les êtres qu'on aime. Mais bon, allez, c'est de la nostalgie, c'est pas ça le problème. Alors, National 7, eh ben, on a piqué une 4 chevaux dans le garage d'un copain. Et puis, on est parti et on a fait comme si on était dans les années 50 et puis qu'on partait avec Martine sur la 7. Alors, il y avait Martine avec sa doudoune, son chapeau enfoncé jusqu'au bout parce que dans une 4 chevaux, il n'y a pas de chauffage. Puis, on a dû s'arrêter dans la forêt de Fontainebleau parce que il y avait de la glace voyait plus clair, on se demandait bien pourquoi on voyait plus clair. Bah, c'était pas étonnant, il y avait la glace à casser avec les clés qui étaient dans le coffre sur les phares. Puis ça a été la magie. Comme quoi, il suffit de monter dans une voiture, il suffit d'avoir des idées dans la tête. Puis d'un seul coup, ben, il y a des espèces de compression de temps. À tel point qu'on s'arrête et puis on voit passer un sulky avec un cheval et on se demande si c'est pas le petit cheval de Paul Fort. Et puis... De 84, il a une pèlerine. Comment 54? Bon. Et on continue, et tout le monde autour de nous qui me dit, mais oui, bien sûr, vous savez. Oh, oui, il a 4 chevaux. Oh, il a 4 chevaux. Tout le monde de s'extasier, nous raconte une petite histoire, et toutes les portes s'ouvrent. Et on se retrouve en ayant tourné première route... à gauche, parce qu'il pleut, qu'il fait froid, on cherche un hôtel et paf, on arrive dans un hôtel où il y a justement plein de voitures anciennes dans le garage. Et puis plus loin, on retrouve un hôtel, encore une fois au hasard, il flotte aussi, même sur la Côte d'Azur, il flotte. Des cordes, encore une fois, une grande... enseigne lumineuse, ça y est, on y va. Et quand on arrive là, juste dans la fenêtre de la chambre, en demi-sous-sol, on voit quoi ? Une dauphine. Et l'hôtel dans lequel on est descendu, ben, il est resté par la propriétaire qui est la fille des gens qui étaient là aux années 50. Le même décor des années 50, le même plumard avec le même tissu, les tables en formica, la petite table de chevet avec la lampe et tout, pareil exactement dans les années 50. Donc là, quand même, tu poses des questions, tu dis, je rêve. Mais pourtant, ça a marché, même en 84. On peut se mettre sur les traces de, et on peut remonter le temps. Et on peut voir ce qui se passe. Si on a vu des choses qui avaient changé parce qu'on les a cherchées. Ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Ça reste, ça s'en va. Permanence du temps, pas permanence du temps. Trop de jeux. Comme le jeu du vrai ou du faux de Sherlock Holmes et les ombres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça existe? Mais bien sûr que Sherlock Holmes habite 221 Baker Street. Bien sûr qu'il est là, puisqu'il y a même des foules dingues du club Sherlock Holmes qui sont encore en train de dire qu'il existe. Parce que ça a tellement force le rêve qu'on peut croire que le rêve existe. Il suffit juste de vouloir, il suffit juste de se rappeler aussi qu'on est encore un enfant, et qu'un enfant qui raconte des histoires aux autres, ben, c'est aussi un adulte plus tard qui continue à raconter des histoires. Chacun avec ses mots, chacun avec sa façon. Moi, je fais des photos et je raconte des histoires. L'heure du jour, l'humeur du jour, la bière du jour, ou le petit rouge du jour. La bière dans les pubs anglais. L'époque victorienne. Pourquoi Sherlock s'ennuyait-il tant? ça, j'en sais rien. Par contre, il y a bien un savant fou, il y a bien un chinois, comme on l'avait dit avec Martine. Avant de partir, on s'était dit qu'on allait trouver un certain nombre de choses. Le savant fou, le chinois patibulaire, les vieilles rues avec le commissariat et les flics qui en sortent, les docks. On a trouvé tout ça. On a eu du mal, hein, mais on a trouvé. Alors dans les petits marchés, ça c'est pas pareil, hein. Je crois que c'est vraiment... Les petits marchés, bah, c'est une commande forcée. Il y a eu plein de commandes forcées. Il y en a qui ont raté, il y en a qui ont réussi. Il y en a qui nous ont permis d'accoucher d'un xème bébé. Ah oui, au fait, j'ai oublié de dire que les Louis sont quand même bizarres. D'abord, c'est pas la Louise qui fait les bébés, c'est le Louis. Et que les bébés, eh ben, c'est des livres. Et puis que ben, moi, je me fade après chaque bouquin. Le baby blues, le book blues. Et que ben, il faut quelques mois avant que je m'en remette et puis que je reparte. Mais je me reparte vite sur autre chose, hein, parce qu'il ne faut jamais s'arrêter. Et donc, les petits marchés... c'est une drôle d'histoire. C'est une histoire d'un monsieur qui avait hérité de son papa un des deux grands propriétaires de primeurs à Paris, juste après la guerre. Ils se partageaient, ils n'arrêtaient pas de se chamailler. Ils allaient même en venir aux flingues. Et le papa, le cœur, et puis le papa, amant, ben, un jour, ils ont dit qu'on est quand même con, on va pas se flinguer, donc on va autour d'un quil de rouge, et ben, ils se sont partagés Paris. Donc, sur la rive droite, c'était le cœur, et sur la rive gauche, c'était amant. Et Pierre le cœur, donc, a hérité de papa, la rive droite. Mais Pierre Lecoeur, il n'a pas du tout, ça leur met royalement les fruits et légumes. Puis il s'embête dans la vie, il ne sait pas quoi faire. Donc, il s'est dit, tiens, collectionneur, éditeur, pourquoi pas. Et ben, c'est pour ça qu'il a donné du fric pour le petit marché. À une époque, ben, on en avait bien besoin, le fric, parce que ben, on est en 93 et que ben, m'est déjà arrivé une drôle d'histoire. Hein. En 91, ben, j'ai perdu mes yeux. Je voyais plus. Et puis ben, j'avais un cancer avec de la myastémie. Je ne l'ai pas su tout de suite, hein, parce que Martine ne me l'a pas dit. Le médecin ne m'a pas dit. Mais ben, j'en avais que normalement pour à peine 6 mois à vivre. Et bon, pour ceux que c'était aussi bien l'un que l'autre, et je crois qu'elle ne me l'a pas dit tout simplement parce qu'elle était persuadée que j'allais vivre. Donc pourquoi dire que tu avais plus que 6 mois à vivre, c'est idiot. On vit, et merde. Ben effectivement, on a commencé à ben, se battre. Donc, maladie. Ben heureusement que la photo était là, parce que s'il n'y avait pas eu la photo, s'il n'y avait pas eu les copains, s'il n'y avait pas eu Martine, ben, je ne serais plus là, hein, je me serais balancée, parce que j'en chie. Hein. J'ai fait plein d'expériences de commandes forcées, comme je dis. Hein. Dans les banlieues, parce que ça aussi, c'est quelque chose, les banlieues. Je commençais par Aubervilliers, ensuite Romainville, et puis le Blanc-Ménil. Ben ça n'a jamais abouti à un bouquin, ça aboutit à des expos, où les maires, bien évidemment, les jours des vernissages, ben, ils avaient, oh là là, d'un seul coup, leur mère qui était malade, Le premier adjoint, il avait un sanglier sur le feu. Et puis, l'adjoint à la culture, lui, il était parti en congrès dans un autre pays. Il n'y avait personne. Et puis, pas deux jours après, il fermait l'expo parce que... Hey, carte blanche. Eh ben non, pas carte blanche. Parce que avec mes yeux, avec mes images, avec la recherche de la poésie, pourtant je me suis appliquée, hein, j'ai pas voulu être méchant, juste ce qu'il fallait, mais pas beaucoup. Eh ben j'ai dû leur faire un peu mal, hein, quelque part, dans leur constat de politicien fier d'avoir travaillé. Et puis après, un grand moment avec un pote, et puis une grande déception, parce qu'à la suite du voyage, je me suis aperçue que le pote, j'avais vraiment plus envie qu'il soit mon pote, parce que finalement, il m'avait fait des tas de crasse, et puis il me mentait. Et ça, le mensonge, moi, je ne sacre pas du tout. Jamais saqué. Mensonge et injustice, jamais. Les choses, on les dit. Des fois, ça fait très mal, hein, quand les autres le reçoivent. C'est pas toujours très bien avec ça. Mais... C'est comme ça, je crois que c'est comme ça qu'il faut que ça passe. Limpide. Et puis, dans la bagarre a continué, jour après jour. Et puis, j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires qui sont les gens du cirque romanesque, avec des gens très très bien, et puis une enflure, Alexandre Bouglione, qui lui est un menteur, qui lui est un exploiteur, et puis je regrette de ne pas lui avoir cassé la gueule, parce qu'il a vraiment fait des choses dégueulasses, mais bon sang, qu'on a passé des moments merveilleux autour du feu, et pendant le spectacle, auprès des tziganes. Mais bon, il n'y en a qu'un, même s'il continue de me mentir, Jean-Marie, Peau Citron. Il ment, mais lui, c'est pas pareil. Il ment pour raconter des histoires, parce que la vie est trop dure, alors... On ne sait jamais si ce qu'il dit c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais là c'est pas des mensonges pour faire mal, c'est juste pour arranger la réalité qu'il pourrait pas supporter. Donc ça c'est pas pareil. Et puis c'est de plus en plus dur. Je suis de plus en plus souvent à l'hôpital, mais heureusement qu'il y a eu l'école. Ça, c'est le plus beau cadeau que Barré, Jean-François Barré, ait pu me faire, de me faire nommer prof à l'ENSA. Parce que l'école, c'est vraiment un endroit avec les étudiants, je peux vraiment refaire, leur ouvrir les yeux, du moins essayer. Pourtant, Dieu sait s'il y en a qui ont une sacrée couche de merde sur les leurs. Et c'est pas la fumée des escarbilles. Mais bon, c'est important, c'est bien. Et puis, c'est un baromètre. Puis, c'est un moteur, un coup de pied au cul le matin quand j'ai mal et que je peux partir quand même à l'école. La photo, c'est rigolo, pas petite bluette, hein. Pourquoi pas, il y en a marre d'être triste, il y en a marre de faire des choses sérieuses. D'ailleurs, ma mère, elle dit toujours que c'est trop noir, que c'est trop trop. De toute façon, c'est toujours trop trop, et c'est jamais bien. Donc, là, il va falloir que j'apprenne à supporter qu'elle ne m'aimera jamais, et puis qu'elle m'aimera d'une drôle de façon, pas celle que je voudrais. Donc la photo, c'est rigolo, je plonge dans les archives parce que en ce moment, je ne peux pas faire trop grand chose d'autre que de plonger dans les archives parce que entre la récupération des chimios, de du jour, je dors, je vais à l'école, je dors, j'ai mal, je dors. Ben, je peux guère aller plus loin que le bout de la rue, donc il n'est pas question de faire des photos. Donc on plonge dans les archives et on fait quand même un livre. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un livre ? J'ai toujours rêvé de livres. Surtout quand on a un grand-père éditeur et que ce grand-père éditeur refuse d'offrir à ce petit-fils qui n'est pas du bon côté de la barrière parce que sa fille a eu ce petit-fils avec quelqu'un qui n'a rien à voir, avec un petit prolétaire qui n'a rien à voir. Et que je vois mes cousins qui ont des tonnes de bouquins, des Tintins, que moi, ben, je suis obligée de rester dans la chambre rose de la rue Dauphine pendant des mois. J'en rêverais des mois, pendant des heures avec les Tintins, mais les Tintins qui sont pas à moi. Et les bouquins, ben, les bouquins, les sentir, les toucher, vivre dedans, jamais les quitter, ne pas pouvoir résister à l'odeur du papier devant une librairie. Je rentre et je fais des bouquins. Il faut faire des bouquins périodiquement, on ne peut pas ne pas faire de bouquins, c'est invivable si on ne fait pas de bouquins. Donc la photo c'est rigolo, bon c'est ce que c'est, basta. Rencontre avec Cavana à cause de ça, et ça c'est une chouette rencontre, ça valait au moins la peine de faire la photo c'est rigolo. Et encore un grand fiasco, bah oui tiens, combien ont vraiment marché les bouquins qui ont vraiment été vendus ? Ticket de caisse, National 7. Les petits marchés ont été vendus, ouais, si. Mais sinon, bah, c'est resté au placard. Ça ressortira. En incunable, chez les bouquinistes, chez les soldeurs. Au départ, bah, j'étais contre les soldeurs, mais après tout, pourquoi pas si au moins tout le monde peut lire des livres photos, parce qu'ils ne se les sont pas achetés quand ils coûtaient 400-500 balles. C'est pour ça que moi, j'ai jamais voulu qu'un de mes bouquins coûte plus de 150 balles. 150 balles maximum, jamais plus. Que tout le monde puisse l'acheter. Et puis mon dernier bouquin, le journal du nouveau siècle. Celui-là, il était important, il fallait le faire. Comme si je savais que ça allait être le dernier.